Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver. On vous souhaite un bon réveil, un très bon petit déjeuner, peut-être des crêpes au programme. En cette journée de la Chandeleur, je vais demander évidemment à nos GG si elles sont en train de déguster certaines crêpes. Oui, Sarah Pitkowski me regarde bizarrement. Tu diras tout à l'heure ce que tu as à dire sur les crêpes, il n'y a aucun problème. Le choc en Ligue 1 ce soir entre Marseille et Lyon, qui a le plus à perdre, c'est la une des GG dans quelques instants. 10h. Et si Mathieu Jalibert remplaçait Romain Tamac à l'ouverture face à l'Angleterre, Fabien Galthié l'a laissé entendre hier. Est-ce un pari risqué pour un joueur déclassé depuis quelques mois? Ce sera notre bras de fer. Et puis 11h, Victor Wembanyama, un extraterrestre parmi les étoiles. Le génie français a été sélectionné cette semaine pour le All-Star Game de la NBA, même si quelques anciennes gloires et joueurs actuels ont remis son statut en question. La folie peut-elle laisser place à la jalousie? Ce sera notre débat un petit peu plus tard. Des crêpes, bah, je vous en présente justement. Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Mathieu Jalibert, on a souvent, longtemps, voulu l'écarter du groupe. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ouais, moi je préfère que tu me compares à une crêpe aujourd'hui.
Ça
une
va
bonne crêpe, bien étalée. Je serais bien resté étalé d'ailleurs. Sur mon lit.
T'as pris ton petit déjeuner là ce matin?
Non, pardon.
Pas encore. Oh là là, t'es malade en plus?
Oh, enfin bref. T'as la vieillesse, mon
monsieur. Exactement. Ravi de te retrouver.
T'as pas pris froid au Stade de France?
Non, il n'a pas pris froid au Stade de France.
Mais il y avait des cours en air au judo hier.
Et oui, on était au Paris Grand Slam, on s'est régalé. Nous sommes
on
de retour.
Et nos auditeurs étaient très contents parce qu'ils n'entendaient rien du tout de ce qui se passait.
Et nous, on est de retour dans le studio pour notre plus grand plaisir. Une grande gueule qui, comme Mathieu Jalibert, il a cartonné en club, un peu moins en sélection. Philippe Saint-André, salut Philippe.
Salut JC, bonjour à tous.
Ça va, mon Philippe?
Désigné meilleur entraîneur d'Angleterre fut un temps quand même. Hein. Attention, ouais, s'il vous plaît.
J'ai des problèmes de micro là. Et en France aussi, 2022, quand même. Et meilleur staff, quand même. Et oui.
Ben oui, exactement.
Bravo.
Mais bon, en sélection, non. Donc, j'y sais, tu as raison.
T'as été un grand joueur du 15 de France, on le rappelle tout de même. Mon Goré, mon Philippe. D'ailleurs, un Goré, ça mange des crêpes?
Oui, bien sûr.
Oui.
Au sucre.
Ok. Une grande gueule qui, comme Mathieu Jalibert, elle habite un endroit où on porte son pull sur les épaules. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonjour à tous. On le porte sur les épaules. Enfin, en ce moment, on se le met dessus, hein, parce qu'il fait quand même un peu froid.
La boule, c'est le petit Bordeaux, non?
Oui,
on l'appelle comme
vrai,
ça ou pas? Un petit
vrai.
Peu. Qu'est-ce qu'il y a avec les crêpes? Je t'ai senti.
Mais non, mais grand parce que tu parles de crêpes, on n'en a pas. Je pensais que quelqu'un allait amener des crêpes.
Je suis animateur, je ne suis pas cuisinier. Hein.
Bon, il n'y a pas besoin d'être cuisinier pour faire des crêpes.
T'as raison.
Hein?
Ah, quand même, si. Il y a quand même quelques petites techniques et tout ça. T'en fais toi aussi à tes enfants ou pas?
J'en fais, oui. Tu sais quoi, vous en fichez complètement, j'en ai mangé hier.
Très bien. Et ben, c'est très intéressant. Voilà. Vous le voyez, les grandes gueules ont beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui.
On pourrait lancer un défi à notre producteur, Kylian Vérov, de nous trouver des crêpes d'ici midi et que nous les dégustions pour savoir quelles sont les meilleures. Qu'on les fasse tourner, tu sais, avec la pièce pour savoir
si
on va être
si riche. Quelqu'un nous écoute, un cuisinier qui fait des crêpes,
oui, facile,
nous sommes dans le 15e arrondissement.
On les aura dans 15 jours.
De Paris.
Non, mais c'est une très bonne idée. Et moi, je sors du studio pour l'ouvrir avec mon badge, hein, premier.
Très bien. Ben voilà, on lance un appel. Si vous avez quelques crêpes à nous rapporter, on serait très heureux, évidemment, d'en déguster durant cette émission.
Ça, tu vois.
Ah, voilà. Voilà comment rendre Christophe Cessieux joyeux en ce dimanche matin. La solution est toute trouvée. Et puis, une grande gueule qui, comme Mathieu Jalibert, on l'appelle l'ouvreur, Fred Weiss. Salut, Fred.
Salut.
Ça peut rien dire, mais ça me faisait
marrer.
Ça va, Fred?
Ça va très bien. Ouais,
l'ouvreur de.
Bien sûr.
Non. L'ouvreur de débat, quand même.
L'ouvreur
de débat, parce que s'il y en a bien qui monte au feu ici, c'est.
On va essayer de pas.
Ou alors l'ouvreur en boîte de nuit plutôt son physique.
Aussi,
son physique.
Aussi. Il y a beaucoup de choses qui marchent.
Toujours beaucoup
avec
de choses. Bien apparemment.
Par contre, il y a Fred, donc ils amènent beaucoup de crêpes quand même.
Je suis d'accord. Je partage pas en plus.
Fred qui a appris quelque chose d'incroyable cette nuit, il n'en revient toujours pas. Il voudrait nous en parler un petit peu plus tard. Mais vas-y, en deux mots.
En deux mots, Luka Doncic est aux Lakers et Anthony Davis est aux Mavericks.
Donc c'est le transfert du siècle, c'est le transfert de ces dix dernières années.
Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je me rappelle pas avoir vu un truc aussi grand dans la NBA.
Ok, tu voudras peut-être nous en parler.
Oui, évidemment, j'ai envie d'en parler.
Mais évidemment, il faudra que tu sois choisi pour en parler un petit peu plus longuement dans cette émission. Allez, on va débuter avec cette citation de Romain Gary qui a dit un jour, il est moins grave de perdre que de se perdre.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Ça a été cette année d'instabilité.
C'est terminé, une nouvelle bronca au Vélodrome.
Nous, notre histoire en particulier, parce qu'on a transformé ces jours, ont été finalement des mois.
Globally, it sucks. It sucks.
Avec le centre de Mata, but. Et le but. Le but pour l'Olympique Lyonnais.
Il a raison, pour moi, c'est normal d'admettre qu'il y a eu des erreurs.
C'est terminé au Vélodrome, écoutez les sifflets de l'enceinte marseillaise dans un contexte très tendu, un fumigène qui arrive sur la pelouse.
C'est un sentiment de honte, ouais, c'est difficile de voir ce genre de match.
Il faut toujours respecter les codes de football.
Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire.
Donc du jour au lendemain, ça a été la dédringolade.
Un engrenage complet, ouais.
Attention, la curseur dans la surface, le Vélodrome qui réclame un pénalty, il n'y aura rien.
Guys, can I tell you something? This is bullshit.
Le pic est magnifique.
C'est une question de fierté.
Oui.
C'était prévu.
C'est un choc, peut-être même un tournant dans cette saison. Les Olympiques s'affrontent ce soir au stade Vélodrome dans un contexte particulier. L'OM n'a plus gagné dans son stade depuis un mois et voit Monaco et Lille revenir à sa hauteur. L'OL reste sur trois matchs en Ligue 1 sans victoire et a envoyé balader son entraîneur Pierre Sage en début de semaine. Des Lyonnais désormais à 7 points du podium et à 5 points de la 4e place. La musique qui fout les jetons. Et cette question, qui a le plus à perdre, Marseille ou Lyon? Christophe Cessieux.
Tout le monde. Non, je vais évidemment tout le monde. Mais en priorité, je pense que Lyon a plus à perdre.
Ok, c'est plutôt Lyon. Fred Weiss.
Marseille.
Marseille. Sarah Pitkowski.
Bah moi, je vais reprendre Romain Gary. Je pense que Lyon, qui est en train de se perdre.
Ok, c'est plutôt Lyon aussi. Philippe Saint-André.
Marseille.
Ok, j'ai deux Marseille, j'ai deux Lyon. Avant de débattre, on va écouter Adrien Rabiot, côté Marseille. John Textor, le président de Lyon, sur l'importance évidemment de cette rencontre et des semaines plus ou moins agitées.
C'est un match très important pour le club, ça a toujours été. Il y a cette rivalité. On a vu la joie que c'était au match aller d'aller gagner. Moi, j'ai regardé ça, j'étais dans ma chambre d'hôtel. On sait que c'est un match important. De toute façon, on le voit, le stade sera plein. On sait que c'est un match très attendu. Bien sûr, on le joue pour nous parce qu'il est important au niveau du classement, qu'il faut se relancer, mais évidemment pour les supporters qui attendent ce match aussi avec impatience.
Seems like 5 years at this point. J'ai rencontré Paolo il y a 5 ans déjà. J'aime son style, il a de l'ambition. J'ai beaucoup de respect pour ce que nous a amené Pierre, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes en mode survie. Il faut désormais regarder devant nous pour augmenter nos chances d'atteindre nos objectifs qui sont élevés.
Nous sommes en mode survie, c'est évidemment l'une des informations actualité de cette semaine avec Fonseca qui a remplacé Pierre Sage. Qui a le plus à perdre, Marseille ou Lyon? N'hésitez pas, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Venez participer avec nous à ce débat. C'est le match ce soir à 20h45. Pourquoi Lyon, Christophe?
Alors, évidemment, difficile de dégager l'un ou l'autre des Olympiques, tant les deux clubs ont un besoin urgent de résultats, mais puisque c'est le jeu, puisqu'il faut faire un choix, eh bien je dirais l'Olympique Lyonnais, un club qui a pris une belle série à l'automne, où on l'avait vu recoller aux places européennes et s'immiscer un peu dans le jeu des grands, eh bien est retombé dans ses travers et son irrégularité. Ça fait quand même 7 matchs que les Lyonnais n'ont plus gagné. Aujourd'hui, ils sont dans l'urgence et pas dans les clous de ce qui est considéré comme l'objectif numéro 1 de la saison, c'est-à-dire terminer dans les places d'une Ligue des champions, qualificatif pour la Ligue des champions. On le sait, cette qualif pour la C1, elle est de plus en plus capitale pour tous les clubs, et notamment pour l'OL, qui est empêtré dans des problèmes financiers et qui a besoin de la manne de la Ligue des champions pour en sortir. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils n'atteignent pas la Ligue des champions, et du coup, bah, ça fait baisser les finances. On a bien compris ces jours-ci en voyant les sommes folles récoltées par les clubs français qualifiés pour les 16e et 8e de finale de la compétition européenne. Rennes, c'est qu'aujourd'hui, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui se qualifient pour la C1, qui obtiennent de vrais droits télé, et il y a les autres qui doivent se contenter des miettes, des droits du championnat domestique. Lyon, depuis quelques années, eh bien, doit se contenter des miettes. Et ça n'est pas du tout dans le statut de ce club qui se veut un grand du championnat de France. Et il ne faut pas que plusieurs saisons d'affilée comme ça se déroulent sans qu'ils n'obtiennent le moindre subside de la Ligue des champions. Faute de quoi, ils vont tomber dans l'autre clan. Et quand on est une ville comme Lyon, deuxième ou troisième ville de France en termes d'importance, qu'on a le passé d'un club comme l'Olympique Lyonnais, eh bien, on peut pas se permettre de faire ça. En plus, ils ont un nouvel entraîneur. Bon, ils sont vraiment dans l'obligation de ramener quelque chose de Marseille. Faute de quoi, eh bien, ils vont peut-être finir à la trapinette.
Ok, l'importance de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est plus le cas aujourd'hui au niveau du classement pour Marseille.
Oui, donc ils sont moins bien classés que Marseille. Ils sont septième seulement. Donc, tu vois, c'est pas.
Ok, un peu peu plus de doutes sur Lyon. Donc pourquoi Marseille, Fred Weiss?
Moi, je trouve très intéressant ce que vient de dire Christophe, vraiment.
Mais tu crois pas.
Mais j'y crois pas. D'accord. J'y crois pas du tout. Alors, j'y crois pas du tout parce qu'il y a un nouveau coach.
Tu as bien travaillé tes arguments. On va voir si tu as bien travaillé tes arguments.
En fait, je pense avoir travaillé mes arguments, mais ce qu'il dit est vrai. C'est vrai que d'un côté, on a besoin de cette manne financière du côté de Lyon. Sauf que, il faut se rappeler qu'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Il a deux entraînements dans les pattes avec son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur une période où on sait comment ça se passe quand un nouveau coach arrive. Il y a trois possibilités. Le statu quo, c'est-à-dire que rien ne change, ça continue de la même façon. Soit ça progresse de façon tout de suite, inespéré, ça, c'est incroyable, il apporte ce jus, ce côté disjoncteur qui est replacé et ça repart directement. Soit il y a un temps d'adaptation, ça retravaille un petit peu. Donc on sait pas ce qui va se passer. Donc on sait exactement, par contre, que le coach vient juste d'arriver et que du côté de Marseille, on sait que c'est une nouvelle équipe, qu'on peut les prendre maintenant parce qu'il a pas eu le temps de travailler, il a pas eu le temps de changer les systèmes, il a pas eu le temps de mettre en place sa philosophie de jeu. Donc, du côté de Marseille, quand on vient d'enchaîner quelques matchs un peu compliqués aussi du côté de Marseille, hein, on est éliminé de la coupe, on n'a pas gagné depuis deux matchs.
Tu trouves des excuses à Lyon en disant qu'effectivement...
Je trouve pas d'excuses, c'est juste une réalité. En fait, ça serait méconnaître le sport que de dire que quand un nouveau coach arrive, il change tout directement. C'est pas vrai. Ça peut arriver, mais c'est pas une excuse. C'est une réalité. Non, c'est juste une réalité.
Si t'es en train de dire, et c'est ce que veut dire Sarah, c'est que si Lyon perd ce soir, c'est normal.
Mais évidemment, parce qu'on est déjà sur le processus de on n'est pas bien, on a essayé de changer les choses. Donc, quand on a commencé un processus, le processus, on ne sait pas comment. Tu peux pas imputer à un nouveau coach
j'impute à quelqu'un le fait que celui qui a le plus à perdre aujourd'hui, c'est l'OL. Je l'impute à une personne.
Ils sont déjà en phase de reconstruction. Ils ont déjà un coach. Ils sont en train de changer les choses. Les choses mettent un certain temps pour changer. C'est une réalité.
Mais basculer en milieu de saison, alors le mois de janvier, il n'est pas catastrophique.
Il n'est pas catastrophique.
Ils n'ont pas gagné de match, mais ils ont ramené des nuls. Ils sont encore en C3. Aujourd'hui, je ne vois pas, à part déstabiliser un vestiaire qui était derrière Pierre Sage, qui a quand même fait un travail, c'est même pas remarquable ce qu'il a réussi à faire.
C'est un miracle.
C'est un miracle, c'est juste spectaculaire comme il a pu sauver Lyon l'année dernière d'une potentielle relégation en Ligue 2. Et aujourd'hui, fragiliser ton vestiaire. Et alors, attends, déjà que Textor, c'est pas le meilleur ami des supporters de l'OL. Le prochain match à la maison. Mais si il fait pas un miracle, notre Fonseca, mais ça va démobiliser tout le monde.
Quand il y a un nouveau coach, ça se passe pas comme ça.
Mais
les supporters vont prendre le parti.
Oui, mais le
contexte, je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a un contexte que tu vas directement accuser et taper sur le nouveau coach qui vient d'arriver.
En fait, quand est-ce que tu vires ton entraîneur en pleine saison? C'est quand finalement il a plus la confiance du vestiaire et donc en fait chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu gagnes plus, mais ils gagnent, c'est pas qu'ils gagnent pas, ils font juste des matchs nuls.
Ils ont pris une décision. Après, encore une fois, il faut l'assumer, je suis d'accord.
Mais je vois pas comment il peut servir, puisque le vestiaire, donc ceux qui sont sur le terrain, ils ont confiance en Pierre Sage. Pour preuve, ils ont tous, Ryan Cherki en première ligne, ils ont tous défendu le boulot incroyable de Pierre Sage.
Mais on est tous d'accord,
avec ça. Mais comment, en quelques temps, tu peux reconstruire une confiance, alors qu'il avait pas perdu la confiance du coach précédent?
C'est un club professionnel, un nouveau coach qui arrive, coach expérimenté en plus, c'est une volonté de la direction, c'est comme ça.
Je crois que Philippe Saint-André veut entrer dans le débat.
Oui, déjà, moi, Marseille, pourquoi? Parce que Marseille, ils ont perdu beaucoup trop de points à domicile. Ils sont encore seconds, mais ils ont perdu beaucoup de points. Il faut à tout prix qu'ils gagnent. Et puis, sincèrement, par rapport à la décision de John Textor, j'ai envie qu'ils en prennent 4. Les Lyonnais. Mais parce que ce qu'il a fait, c'est une honte. On s'en souvient, l'année dernière, en début de saison, ils étaient, tous les experts disaient Lyon ne va pas se sauver. Oui. Ils avaient un nombre de points incroyable. Et il a remis l'équipe d'aplomb. Les joueurs sont contents de lui, les supporters sont contents de lui. Déjà, c'est compliqué. Le rôle d'entraîneur, je peux vous assurer que c'est un job compliqué. Quand tout le monde est heureux, ils sont septièmes, ils le virent. Donc pour moi, la pression, elle est sur Marseille. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de gagner. Ils ont besoin de gagner à domicile.
Et parce que tu ne serais pas surpris que Lyon en prenne une
Et je ne serais pas surpris que Lyon en prennent et en prennent.
Et tu le souhaites même.
Et je le souhaite surtout par la décision de ce président. C'est une décision qui est invraisemblable. Il comprend pas pas le foot français.
J'ai l'impression que ça vous fait parler, donc on va rester sur le cas Pierre Sage, parce que je l'ai pas beaucoup entendu cette semaine depuis son éviction.
Parce qu'il a la classe. Non, mais
c'est pas ça. J'ai pas beaucoup entendu cette analyse cette semaine et je vous en fais part. Mais j'ai l'impression que ça se... On l'a connu déjà dans le championnat de France, ce coach, même si il obtient des résultats, il passe à la trapinette. C'est arrivé avec Antoine Camboire, les Qataris.
C'est exactement l'exemple que je voulais mettre en avant.
Tu sais quand pourquoi, les Qataris parce qu'il manque, sont arrivés. Il manque de notoriété.
Non mais exactement. Ah, mais voilà. Quand les Qataris sont arrivés, ils ont laissé Antoine Camboire qui était là en place. Mmh. À la trêve, il est leader de la Ligue 1. Il se fait virer parce que là, il y a l'occasion de faire Carlo Ancelotti. On en avait un peu parlé à l'époque en disant, c'est vrai, c'est injuste pour Antoine Camboire. Mais bon, quand t'as l'occasion de faire Carlo Ancelotti, alors je compare pas Carlo Ancelotti avec Fonseca, mais est-ce qu'on peut comprendre aussi cette décision de John Textor à un moment donné?
C'est des choix, en fait, c'est des choix à vraiment court terme. Oui, parce que Paolo Fonseca vient de se faire dégager du Milan AC et qu'il est sur le marché. Et donc John Textor dit, il faut que je le prenne tout de suite parce que au cas où il signerait dans un autre club, mon choix numéro un. Mais dans ces cas-là, tu peux le payer pour les 6 mois et dire, écoute, je te prends à la fin de la saison. Tu le bloques pendant 6 mois. Mais
ça c'est un peu compliqué quand même ça.
C'est un peu compliqué de compliquer
tout. Je bloque, mais je garde
la pénale. Quand tu vires un entraîneur, ça va te coûter de l'argent quoi qu'il arrive.
Mais par contre, je suis d'accord avec vous. Le fait de virer quelqu'un qui fonctionne, c'est incroyable, c'est complètement ridicule. Et c'est là que je rejoins Philippe. Quand tu dis que la méconnaissance de la Ligue 1 et du championnat français, à un moment, c'est pas parce qu'il a pas de nom qu'il c'est pas un bon entraîneur. On ne signe pas un entraîneur sur son nom, sur ses qualités et ce qu'il a prouvé.
Mais quand tu es un investisseur, quand t'es propriétaire étranger, t'as envie d'un nom qui fasse qui vitrine, ça vrombisse un petit peu. C'est ce qui s'est passé avec le PSG. Camboire, aussi bon entraîneur soit-il, c'était pas pour la vitrine internationale. Valait mieux avoir Carlos Ancelotti sur le banc qu'Antoine Camboire.
Mais il y a Textor, il y a un an, il était content de récupérer.
Ouais, c'est ça. Il était très content.
Pour remettre le club.
La reconnaissance du ventre, à un moment, c'est important.
Peut-être qu'il était content, sauf que quand il est arrivé, c'était Pierre Sage qui était en place. Il a pas forcément voulu.
Non, c'était pas Pierre Sage qui était en place.
Non, c'était pas Pierre Sage, c'était Laurent Blanc qui était en place. Mais il y a eu Pierre Sage, il a eu des bons résultats. Tout de suite, il s'est dit, ok, on va rester comme ça.
Il faut d'abord
trouver un autre entraîneur. Oui. Mais attends, t'en as connu des présidents zinzin, toi,
oui,
Philippe,
oui, bien sûr. Non, mais attends.
Ah, mais à un moment donné, est-ce que ça peut pas se comprendre? C'est lui qui paye, c'est son club, il fait un peu ce qu'il veut. S'il y croit pas,
il aurait pu avoir être élégant en disant, Pierre, Sage, tu finis la saison, j'ai l'opportunité de prendre un coach.
Et tu finis la saison, on rate la Ligue des Champions, on a 50 millions en moins, et je vous mets sans étude.
Est-ce que t'es sûr qu'ils vont rater la Ligue des Champions?
Ça en prenait la direction.
S'il n'y croit pas, si en tant que président, après on dit oui, il connaît pas assez le foot, s'il n'y croit pas lui, intimement persuadé qu'avec Pierre Sage, il ira pas en Ligue des Champions.
Il connaît quoi au
et
foot,
que c'est final.
Textor, à part à une entreprise.
Mais c'est le seul argument qu'on nous sort. Avec le Brésil, il a été champion. Je veux dire, il a quand même quelques.
Après, un président, il doit avoir une vision aussi. Effectivement, s'il n'y croit pas, il doit changer. Il vaut mieux changer maintenant parce qu'après, sinon, on retombe dans ce que vient de dire Christophe. C'est qu'on retombe dans le fait que, ils ont pas la Ligue des Champions et tout le monde va l'accuser de pas avoir de prix de décision au bon moment aussi.
Ce débat dans une dizaine de journées.
Mais il aurait pas eu intérêt de prendre 2 ou 3 bons joueurs? Aussi.
Il peut pas recruter.
Il peut pas recruter, par contre, il a des sous pour virer un entraîneur et pour en acheter un autre.
C'est un entraîneur qui lui coûtait pas cher.
Oui, mais celui qui va arriver, il vient pas gratos, quand même. Okay.
Le problème, c'est que c'est plus facile de virer un entraîneur que de virer un vestiaire entier.
On poursuit la discussion sur Pierre Sage, sur l'Olympique Lyonnais, sur Marseille. Ce soir, n'hésitez pas, 32-16.
Donc, tout le monde est d'accord que l'OL est le plus en...
Ah, non, il y en a deux qui disent Marseille.
Non,
t'écoutes plus.
J'ai cru comprendre que vous étiez passé par, que vous aviez laissé tomber Marseille parce qu'évidemment, la situation de Lyon est beaucoup plus dramatique que celle de l'OM, mais ça vous l'avez pas encore compris. On va vous le faire comprendre.
Il faut amener des crêpes à Christophe.
Oui, il est un peu nerveux. Hein.
Il a besoin.
Il essaye de vous faire changer d'avis, c'est tout. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
C'est de la pâte.
Vous avez du sucre?
Les grandes gueules du sport.
Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Jean-Christophe Drouet.
Et voilà, la fameuse crêpe au sucre, évidemment, ce dimanche de la Chandeleur. 9h27, vous écoutez les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité dans une dizaine de minutes. Le zapping des GG, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. J'ai l'UCI qui bannit le monoxyde de carbone. Enfin, on en a souvent parlé dans cette émission. J'ai du Renault Lavillény. J'ai l'Irlande qui bat l'Angleterre. Ça va intéresser nos amis rugbyman. Ou encore de la Coupe Davis. Ça, c'est pour Sarah Pitkowski. Donc, restez bien avec nous. On s'en fout pas. Dans 10 minutes. Oui, mon cher Christophe?
Il en est où, justement, Kylian, au niveau des crêpes? Sa quête des crêpes, là?
Il me dit ça arrive.
C'est vrai?
Voilà. Alors, la dernière fois qu'il m'a dit ça arrive, j'ai attendu une semaine. Mais peut-être que ça va arriver. En tout cas, j'espère. On le motive, évidemment, notre producteur, pour trouver des crêpes pour Christophe Cessieux.
Tu lui fileras la moitié de ta prime, par exemple.
Oui. Ah bah, il va se marrer, parce que c'est pas énorme. Là, il me dit, si j'ai la moitié de la prime, je le commande tout de suite. Mais la moitié de ta prime, mon cher Christophe, et vu le nombre d'années que tu as passé à RMC, elle doit être conséquente, évidemment. On reste un petit peu sur notre débat. Marseille-Lyon ce soir, 20e journée de Ligue 1, c'est à 20h45, la grande soirée à partir de 20h30 autour de Jean-Louis Tour, Jeannot Séguier, en direct du Stade Vélodrome. Qui a le plus à perdre, Marseille ou Lyon? Dans quelques instants, les auditeurs vont arriver pour débattre avec nous. Tu n'as pas forcément convaincu, tu l'as entendu, Fred Weiss, tu n'as pas convaincu Christophe Cessieux sur ton argument marseillais. Est-ce que si Marseille perd ce soir, eh ben ça va être compliqué pour eux, sachant qu'à domicile, il y a des difficultés.
Et tu penses qu'ils vont virer Deserbi ou non?
Non, ça va être compliqué, bien évidemment, pour Marseille. Alors, effectivement, si on prend les situations en général, on peut dire que Lyon a plus besoin de victoire que Marseille. Oui, sauf que dans la situation actuelle, Marseille qui ne joue pas de Coupe d'Europe, Marseille qui vient d'enchaîner les matchs un peu difficile. Marseille, qui a quand même des difficultés à gagner à la maison, et qui joue contre une équipe qui vient de tout changer, de révolutionner tout, bah, si tu gagnes pas ce match-là, à la maison, devant tes supporters, dans ce derby un petit peu, enfin, en tous les cas, dans ce match un peu à enjeu, eh ben, t'es pas très bien. En fait, sur ce point-là que je pense que Marseille a plus à perdre. Effectivement, en termes de victoire, Lyon en a plus besoin. Bien évidemment, si on étend le débat sur le restant de la saison, je dirais Lyon. Mais si on prend juste ce match, encore une fois, Marseille à la maison, franchement, ça rassure pas. À chaque fois, là, cette victoire pourrait être une victoire référence à la maison contre un club qui est un rival et contre un club qui, encore une fois, vient de changer de coach. Donc, il y a une nouvelle philosophie qui doit mettre des choses en place, etc. L'excuse serait difficile à trouver du côté de Marseille.
Et là, on ne pourra pas toujours se cacher derrière l'arbitre.
Hein. Exactement.
Ça a beaucoup fait parler côté marseillais ces derniers temps. Amine nous appelle au 32-16, supporter de Lyon. Salut Amine.
Oui, salut les gars.
Bon, avec ton nouveau coach, là, qui a le plus à perdre selon toi?
Ah, pour moi, c'est Deserbi qui a le plus à perdre, ça c'est sûr. Par contre, moi, je vais juste revenir sur quelque chose. Fonseca, il faut savoir que s'il gagne ce soir déjà, vous imaginez
le crédit qu'il va obtenir, oui, ça c'est sûr.
Le crédit qu'il va obtenir. Voilà, parce que derrière, il y a beaucoup de gens qui critiquent, voilà, pourquoi Pierre Sage, il a été mis dehors et tout, et derrière lui, il arrive, il tape Marseille, ça change tout. Par contre, moi, je suis d'accord avec l'éviction de Pierre Sage. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer, mais aujourd'hui, je suis d'accord. Pourquoi? Le dernier match, la dernière victoire, c'est contre Francfort, on a gagné 3-2. Derrière, c'est que des défaites ou des matchs nuls. La seule victoire, c'est contre un club de N3 ou N2 en Coupe de France. C'est une victoire contre Montpellier 1-0. Le reste, c'est que des matchs nuls, que des défaites. On arrive, on a plein d'occasions. S'il y a troisième, on rate ses occasions à chaque fois. On n'avance pas tout simplement parce que derrière, devant, ça patine. C'est tout. C'est le seul truc. Aujourd'hui, on est septième. On rate encore cette occasion. Encore aujourd'hui, là, demain, si on gagne, ce soir, on se retrouve à seulement 4 points de l'OM.
Peut-être, mais tu disais ça de Pierre Sage il y a un mois ou pas?
Mais c'est ça, justement, c'est ce qu'il faut se dire. Il y a un mois, non, parce qu'il y a un mois, les résultats, ils suivaient. L'année dernière, il a fait monter Lyon, il a réussi à faire maintenir Lyon parce que les résultats, ils suivaient. Il faut savoir que l'année dernière, combien de buts on a marqué à la dernière minute? Oui, mais combien de fois on perdait 3-1, on a gagné 4-3 contre Brest, on perdait 3-1 contre Lille, je crois on gagne 4-3 aussi. Oui, on nous a sauvés, il y a eu le discours, on a réussi à finir européen, c'est super, et merci à Persage pour ça, il nous a fait du super travail. Cette année, ça a bien commencé, derrière, ça a mal fini, il y a eu des matchs nuls, il y a eu des défaites. Je pense que la défaite de trop, ça a été la défaite contre Bourgoin-Jallieu pour Textor. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas normal. Je prends l'exemple, par exemple, Manchester City, aujourd'hui, Guardiola, c'est compliqué pour lui à Manchester City. Aujourd'hui, il a énormément de crédit parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, tout ça et tout. Aujourd'hui, nous, on a gagné quoi avec Pierre Sage? quel trophée on a gagné avec Persaj pour dire, bah voilà, on a gagné tel trophée, on a le droit de le garder.
Je sens que ça fait réagir. Il fumine, là, Philippe Saint-André.
Non, mais tu as beaucoup de mémoire, Cameron. Parce que pendant 4 semaines, il a eu moins de résultats, tu le brûles. Alors que il a repris le club, vous étiez dernier, vous aviez pas un point, il a fait une demi-saison, la saison dernière, assez exceptionnelle. Après, où je suis d'accord, c'est que la défaite à Bourgoin-Jallieu, normalement, Bourgoin-Jallieu, à l'époque, ont gagné au rugby contre Lyon, mais au foot, c'était jamais arrivé. Et donc, je pense que cette défaite a fait énormément de mal au club et surtout à l'entraîneur qui a perdu, je pense, beaucoup du côté de son président.
Mais tu sais que ça va vite, Philippe, tu connais bien le fait d'être entraîneur. Donc, sport, ça va extrêmement vite. En un mois, on passe d'une idole absolue à quelqu'un qui faut virer.
Mais
c'est pas
Jordan. En un mois,
il y a eu beaucoup de matchs nuls aussi.
Non mais on pensait que le sentiment était minoritaire. Alors on n'a pas fait de sondage, mais Amine, vous l'avez entendu sur Pierre Sage, il y a Quentin via le Direct Studio qui nous dit Sage nous a sauvés, mais pour passer un palier, il nous faut un entraîneur qui a coaché à l'étranger.
Mais encore une fois, il faut qu'un président ait une vision, et si la vision Textor c'est celle-là, on peut se tromper. Alors effectivement, nous, ça nous choque parce que Pierre Sage a sauvé cette équipe et on se rappelle ce qu'il a fait. Mais effectivement, que peut-être pour progresser pour cette équipe, ben il faut prendre un coach aussi référencé que Fonseca, peut-être.
Sarah.
Je suis peut-être en train de changer d'avis.
Non.
Pas si.
Ça tombe bien, t'es à la place de Denis Charvet, David.
Mais moi, j'attends les arguments avant d'être à l'eau tiède, tu vois.
Bravo.
Non, mais je suis peut-être, effectivement, et c'est l'auditeur, finalement, si lui, supporter de Lyon, moi, je les regarde pas, les matchs de Lyon, si effectivement, ces matchs nuls, qui se sont joués au mois de janvier, c'était des matchs où à un moment, il y avait un souci pour marquer et que ça devait passer. Ça peut peut-être s'entendre. Ça peut peut-être s'entendre, effectivement, que Pierre Sage, aujourd'hui, pour passer un cap.
Et donc, si ça s'entend, on est d'accord que forcément, l'OL a moins à perdre que Marseille. Parce qu'ils sont sur cette phase de reconstruction où ils travaillent avec un nouveau coach qui vient juste d'arriver.
C'est ce que je disais tout à l'heure, elle est trouvée.
Elle est plus que valable en plus.
Ok, Amine est toujours avec nous, supporter de Lyon. Tu attends quoi de ton équipe, là, ce soir?
Alors, ce soir, j'attends une équipe revancharde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, montrer que c'est pas la faute des joueurs. C'est ça en fait le message que je veux qu'ils envoient. C'est que c'est pas la faute des joueurs que le club est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, si Lyon fait un gros match, ça montrera encore une fois que ça montrera à Textor que voilà, c'était le coach qu'il fallait changer. OK. Maintenant s'ils arrivent.
Mais Amine, est-ce que tu parles du fond du match ou tu parles du résultat? Parce que
D'abord le résultat, après le fond, j'en parlerai après, mais d'abord le résultat, juste derrière sortir avec un résultat positif et dire on a gagné le match. Maintenant sur le fond, aujourd'hui ce que je demande c'est de la conservation de balle, c'est de la maîtrise technique. Quand on voit le match contre Nantes, on gagne, on fait 1-1. On marque un but, on met 1-0 et derrière, on est derrière, on regarde le match passé et derrière, on prend un but à la fin. Contre Toulouse, on fait 0-0, il se passe rien du tout. En fait, ce que je demande, c'est que je veux qu'il se passe des choses. Alors, on disait que oui, voilà, Paulo Fonseca, il est là, c'est un homme de spectacle. Alors, j'attends de voir, mais je veux vraiment qu'il se passe des choses.
Oui, tu es d'accord avec moi qu'il vient juste d'arriver, donc c'est difficile pour lui d'avoir déjà mis une philosophie de jeu, d'avoir déjà instauré des choses, alors qu'il a 2 entraînements dans les pattes au max.
Déjà quand je vois la compo, je crois que c'est, j'ai vu sur RMC hier, j'ai vu qu'il mettait Tolisso en 10.
Ouais,
Tolisso
en 10,
c'était son poste avant.
Ah, en 10, on peut trancher en 8 plutôt si vraiment on veut parler technique. Il a jamais été vraiment milieu offensif, Tolisso.
En fait, il a quand même, je veux dire ça se rapproche plus du poste qu'il avait avant que le poste que Pierre Sage lui mettait maintenant.
Peut-être.
Et donc la casette en pointe, j'ai vu donc Cherki à droite, Kouama à gauche. Et là, il veut mettre Thiago Almada donc titulaire.
Oui, mais moi, c'est une première, encore une fois, c'est une première, il vient d'arriver, il peut pas tout révolutionner. En fait, c'est une équipe qui est à peu près en place quand même, même si c'est un peu plus dur en ce moment.
Quand je vois le match contre Ludogorets, quand je vois Lacazette et Nico Tsadze sur le terrain en même temps, vous vous rendez compte, c'est 2 numéros 9 qui ont le même poste, ils sont même pas complémentaires et tout, ils sont les deux en même temps sur le terrain. C'est inconcevable.
Ouais, c'est fou comme vous avez tendance quand même, Amine, à brûler quand même ce qui a marché avec Lyon. Philippe n'est toujours pas d'accord. D'ailleurs, Philippe, t'as déjà connu des présidents aussi dingos que John Textor ou pas?
Il en a connu un paquet de.
Ouais, des noms.
Sur John Textor, moi, ce qui me dérange, c'est que son job, ça serait de régler le problème qu'il a financier, que le club puisse recruter des joueurs, et apparemment ils ont des problèmes devant, et donc de recruter des bons joueurs pour marquer des buts. Ça, c'est le job d'un président. On a vu la sortie qu'il a fait ici. Alors il a critiqué tout le monde, etc. Mais quand il est passé en face de la DNACG, il a dit tout s'est bien passé. Et une semaine après, le club était en grande difficulté.
Ils font tous pareil, hein, par contre, Philippe. Dès qu'ils passent devant ces commissions-là, ils disent toujours tout va très très bien. Et au final, ils reçoivent un petit coup de bâton quand même.
Ouais, mais ça, moi, je voudrais savoir si c'était possible de faire perdre les deux équipes ce soir.
Alors, ça va être difficile. Bah,
je vous explique.
Ah oui, à Nice.
Marseille a 4 points d'avance sur Nice et Nice a 3 points d'avance sur Lyon. Si les deux perdent et que nous, on gagne à Toulouse, on s'approche de la
Ligue des Champions. Pareil, on va deux. Je te propose un match nul. Ça ira.
Ouais.
Non, mais juste rapidement, un président interventionniste, ça t'en a connu aussi, qui venait s'occuper de tes histoires de terrain.
Oui, bien sûr, ça arrive. Hein.
Ouais, comment tu fais pour gérer?
Ce qui est important, c'est de mettre les règles du jeu avant. Par exemple, avec Mourad Boudjella, qui était quelqu'un qui était atypique, et lui, il s'occupait du recrutement. Quand je suis venu à Toulon, il avait le droit de prendre deux joueurs, les deux joueurs du président, et moi, je m'occupais du reste du recrutement.
Mais est-ce que tu étais obligé de les faire jouer? C'est hyper
intéressant. Il avait pris Wilkinson, donc c'était pas mal quand même. Au début, il a pris Wilkinson. Après, quelquefois, il y a eu des erreurs aussi qui ne sont pas restées longtemps. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de salary cap, parce que maintenant, tu ne peux plus le faire. Mais donc, il y avait le cadeau du président. Il avait le droit de prendre deux joueurs par saison. Mais ce qui est important, voilà, c'est que quand tu fonctionnes avec des président comme ça, il faut que les règles du jeu soient bien mises en place au départ.
Oui, mais voilà. J'ai envie de dire, t'es une légende du 15 de France, donc c'est vrai en plus. Donc c'est plus facile d'avoir de l'autorité sur ton président, un Pierre Sage que l'on adore.
C'est très difficile pour lui.
Avoir de l'autorité sur Boudjella, c'est pas évident non plus. Hein.
Ok, le joueur du président. J'aime bien ce concept. Ça existe encore, ça, d'après toi, en top 14?
C'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec le salary cap qui est difficile, avec les GIF où il faut 16 joueurs issus de nos filières de formation sur feuille de match, maintenant c'est un recrutement qui doit être fait et bien fait, alors qu'avant il n'y avait pas de salary cap, donc si tu avais un ou deux joueurs étrangers supplémentaires, c'était pas un problème.
Ok, on remercie Yami d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous. Marseille-Lyon, c'est donc ce soir 20h45, ce sera à suivre en direct en intégralité sur RMC. Une grande journée s'annonce évidemment pour ces deux équipes. 9h40, on se retrouve dans quelques instants avec on s'en fout pas. Il y a Renaud Lavillenie qui a franchi 5m80. Oh oui, il a déjà fait plus, hein. Mais il a 38 ans. À tout de suite sur RMC, ça vous intéresse ou non?
Oui, bien sûr.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h42, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André, Fred Weiss. À partir de 10h, on ouvre le débat. Mathieu Jalibert va-t-il remplacer Romain Ntamack à l'ouverture pour le match samedi face à l'Angleterre? Est-ce un pari risqué? On se posera la question. Ce sera le bras de fer des GG. Dans quelques instants également, le zapping, on s'en fout pas. Mais sachez que dans une heure, 10h45, c'est à vous de jouer, les GG. Les GG contre-attaque. Vous avez quelques secondes pour vendre votre débat aux auditeurs, un débat et une proposition soumise au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Fred Weiss est très chaud ce matin parce qu'il est choqué, mais vraiment choqué. Il a des choses à nous dire. C'est quoi ton débat, ta proposition?
En fait, il vient de se passer un séisme absolu en NBA dans le basket américain. Il se trouve que maintenant, on va se retrouver avec Luka Doncic qui va jouer aux Lakers. Mais aux Lakers, c'est qui? LeBron James. Luka Doncic, un des meilleurs joueurs du monde, va jouer avec LeBron James. Sauf que, de l'autre côté, celui qui est parti pour le remplacer et qui allait à Dallas Mavericks pour remplacer Luka Doncic, c'est Anthony Davis, un des meilleurs joueurs du monde qui va jouer avec Kyrie Irving. Donc on se retrouve avec deux équipes qui ont gagné potentiellement sur le trade, avec deux équipes stars.
Kyrie Irving
joue à Dallas Mavericks.
À Dallas.
Et donc il jouait avec Luka Doncic qui était censé être la figure de proue de Dallas, qui était le Dirk Nowitzki du futur, a été transféré aux Lakers. Honnêtement, pour un basketteur, ce matin a été incroyable.
Ouais, je vois apparaître sur X, notamment tous les basketteurs, tous ceux qui s'intéressent au basket, ils sont choqués par ce transfert.
Le transfert est complètement fou.
Ok, tu veux nous en parler, c'est ta proposition. Si vous avez aussi envie de parler NBA, eh bien, vous allez voter pour Fred Weiss. Christophe Cessieux, tu veux parler de quoi?
Moi, je vais vous parler d'un événement, du seul véritable événement sportif de ce dimanche. Ça se déroule dans la région de Sarah, ça se déroule dans le Pas-de-Calais, à Liévin. C'est une petite ville qui jouxte Lens. Et cet après-midi, il y a une horde de 30 000 personnes qui va débarquer avec des drapeaux du Lion des Flandres, des drapeaux néerlandais, des drapeaux belges, pour venir encourager Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, qui vont s'affronter dans la boue, dans les flaques, dans les championnats du monde de cyclocross. C'est une épreuve extraordinaire qui se déroule pour la première fois depuis très longtemps en France. Il reste encore des places. Autrement, vous aurez Arnaud Souk à écouter cet après-midi et je vais raconter un peu ce que c'est que le cyclocross. Je peux vous dire que c'est une épreuve sublimissime.
Ok, c'est la proposition de Christophe Fessieux.
Un peu taché, mais bon,
qu'est-ce que vous voulez. Oui, mais c'est beau. Bah oui. C'est beau à voir.
On adore
surtout de son canapé.
Pas dans basket, ils finissent tous nickel.
Sarah Pitkovski.
Oui, on est des gens propres.
Sarah Pitkovski.
Alors, moi, je vais vous parler d'Alexis Peintureau avec cette nouvelle blessure suite à sa chute la semaine dernière. Et en fait, il a parlé quand même assez rapidement, hein, et c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'il doit continuer? On sait qu'il est revenu l'année dernière d'une rupture des ligaments croisés du genou. Là, c'est l'autre genou. Et à 34 ans, en fait, depuis qu'il a décidé de se consacrer aux épreuves de vitesse, eh bien, en fait, les blessures s'enchaînent. Et moi, j'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce que c'est le moment de dire stop pour Alexis Peintureau? Lui se pose la question.
On l'a entendu en tout cas. Il a donné une conférence de presse vendredi. On l'a entendu hier dans les GG. Évidemment, si vous voulez en reparler, eh bien, c'est avec Sarah Pitkovski. Philippe Saint-André, ta proposition?
Eh bien, hier, à Paris, la Défense Arena, il y avait la finale de l'In Extenso 7. Alors, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un week-end de 6 nations. Mais le rugby français travaille énormément sur le rugby à 7. On a été champion olympique. Et hier, donc, il y avait tous les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, les gros potentiels. Et à noter que l'équipe féminine de Bobigny a gagné contre les Clermontoises. Et les Barbarians, donc Denis Charvet va être content, ont gagné les Palois qui perdent une quatrième finale.
Ça, je suis content moi aussi. Que Pau est perdu, je suis assez content aussi.
Ok, le rugby à 7, c'est la proposition de Philippe Saint-André. Allez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. On en parle dans une heure. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, les Bleus bien partis pour remporter le premier tour de la Coupe Davis. On s'en fout pas. Je vais aller voir qui. Tiens, Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Ok, Fred Weiss.
Je m'en fous pas, mais Sarah est une bible.
T'as le droit de dire, je m'en fous. Hein.
Non, moi je m'intéresse, j'ai envie d'écouter Sarah.
Philippe Saint-André.
Je vais écouter Sarah.
Ok, ils s'en foutent tous, j'ai bien compris.
J'ai pas intérêt à m'en foutre alors.
Non.
Non, mais je m'en fous.
Ok, 2-0. L'équipe de France de tennis mène face au Brésil. Ce premier tour se dispute à Orléans. Hugo Humbert et Arthur Fils ont fait le travail hier en remportant les deux premiers simples. L'équipe de France n'a plus qu'un match à gagner sur les trois qui vont avoir lieu aujourd'hui. Il y aura d'abord le double, puis évidemment, si besoin, les simples pour valider la qualification pour le prochain tour. Ça se passera en septembre. Et là, ce sera la grande nouveauté de cette Coupe Davis. On en parlait hier parce qu'en septembre, il y aura le retour des matchs domicile extérieur. Et puis ensuite, il y aura le Final 8 en novembre à Bologne. Éric Salieu est notre envoyé spécial à Orléans. Salut Éric.
Salut les grandes gueules.
Bon, tu as assisté aux deux rencontres. Salut. Jusqu'ici, tout va bien.
Oui, sauf qu'il y a eu une poignée de main un peu chaude entre Arthur Fils et Thiago Sebotwell parce qu'il y a eu un petit litige arbitral en toute fin de match où c'est vrai que le Brésilien a été sanctionné d'un touch, c'est-à-dire que l'arbitre a estimé qu'il avait touché la balle alors que le passing de Arthur Fils était sorti. Ils sont devenus fous furieux, les Brésiliens, et il a pas digéré ça. Et il a failli en venir aux mains avec Arthur Fils, à tel point que Paul-Henri Mathieu a dû intervenir. Alors, en conférence de presse, après coup, Arthur Fils était calmé, mais il reconnaît que ça avait été très très chaud.
C'est des choses qui arrivent, voilà, c'est la Coupe Davis, il y a beaucoup d'émotions, c'est des moments qui peuvent être un peu chaotiques. On est deux mecs qui s'entendent bien, et parfois on peut avoir aussi un peu le sang chaud, donc ça peut porter un peu à confusion parfois, mais il n'y a aucun souci, on s'entend très bien, donc pas de problème.
Polo vous a bien calmé, hein.
Ouais, Polo, il s'est mis entre nous deux, il m'a parlé, il m'a dit tranquille, on se calme, on s'en fiche, etc. Donc c'est parfait.
Mais ce qui est bien, c'est apparemment tout le monde s'accorde avec, il y a eu malheureusement une faute d'arbitrage.
Ouais, il y a une faute d'arbitrage et c'est malheureux, malheureux pour lui. L'arbitre, ben voilà, c'est son boulot, c'est compliqué parfois, mais sûr que celle-là, elle était assez importante. Ouais.
En tout cas, moi, j'ai adoré cette scène parce que ça représente aussi la Coupe Davis avec ses coups de chaud et c'est tout le charme des matchs domicile-extérieur parce que si cette scène avait eu lieu à Valence, on n'en aurait pas parlé.
Exactement. Merci, mon cher Eric Salio. Tu peux rester avec nous, Sarah, sur pour l'instant cette balade, j'ai envie de dire, en tout cas, ce 2-0 pour l'équipe de France.
Oui, enfin, c'était pas signé d'avance. Hein. En face, il y a une pépite qui s'appelle João Fonseca. Alors, lui, coach pas à Lyon, hein, je vous rassure. C'est un jeune Brésilien de 18 ans qui est en train de progresser en flèche. Et non,
il fait sensation là à l'Open d'Australie.
Oui, absolument. Et donc, c'est ça qui rendait aussi un peu incertain cette rencontre. Et puis, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un format où effectivement on a le home et away, c'est-à-dire que
c'est ce qui nous fait rêver nous qui ne sommes pas amateurs autant que toi de tennis,
moi,
c'est incroyable.
J'ai le plaisir d'allumer la télé, de regarder les matchs. Ça y est, j'ai compris où ça jouait, j'ai compris à quelle heure ça allait jouer. Enfin, j'ai pas des matchs avec une journée de repos au milieu. Enfin, là, on retrouve l'essence même de cette compétition et c'est cette essence même de cette compétition où la France a brillé, pas nécessairement parce qu'on était meilleur sur la feuille de match, c'est parce qu'on a la culture de la Coupe Davis. Alors, effectivement, si on gagne, ben, on jouera, Eric, si je ne me trompe pas, on jouera contre la Croatie en Croatie, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais quoi qu'il arrive, on retrouve l'essence même de cette compétition et ça fait du bien.
Qu'est-ce que tu penses du final 8? Parce que moi, j'aurais voulu que ça continue justement sur ce type de format quasiment jusqu'au bout.
Oui, mais il y a un problème financier. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne veulent pas détricoter cette décision qu'ils
ont
prise. C'est un moindre mal.
Exactement.
Mal. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux matchs qui vont se jouer soit à domicile, soit dans le pays adverse. La salle était pleine. Alors, c'était une toute petite salle à Orléans parce qu'il y avait, je crois que c'est le basket. Ils pouvaient pas avoir accès à la salle.
Possible.
Mais les 3000 places, elles se sont vendues. Mais
bah évidemment, tout le monde avait envie de voir ça.
Exactement.
Et puis, une nouvelle génération aussi qui donne envie aux spectateurs de les voir. C'est quoi la composition du double là? Est-ce qu'on la connaît?
Oui, c'est Pierre Gerber et Benjamin Bonzi. Donc, ce sera une association totalement inédite. Je crois que c'est le cinquième partenaire de Pierre Gerber en Coupe Davis. Donc, on va voir en face, c'est une équipe solide. Il y a notamment Melo. Bon, il y a plus de 40 ans, mais c'est un mec qui a été très, très fort. Donc, si jamais ça se passe mal, on aura le match des numéro 1 entre Hugo Humbert et Thiago Seboltoile, celui qui a failli en plafonner Arthur Fessy.
C'est à quelle heure le double, Eric?
14h,
parfait, ce sera à suivre sur RMC avec au commentaire Eric Salio, merci d'avoir été avec nous ce matin. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'Irlande qui vient à bout de l'Angleterre pour ce premier choc du tournoi Destination. On s'en fout, on s'en fout pas, Christophe Cessieux?
Je ne m'en fous pas du tout.
Ben Weiss?
Je m'en fous.
Ok, Sarah Pitkowski?
Je m'en fous pas, mais moi je vais écouter Philippe.
Ok, Philippe?
Je m'en fous pas, bien sûr.
L'Irlande, double tenante du titre dans ce tournoi Destination, a donc renversé l'Angleterre hier à Dublin, victoire 27-22 avec le bonus offensif comme les Bleus la veille face au Pays de Galles. Les Irlandais, ça c'est important de le préciser, ont été menés 10-5 à la mi-temps, mais heureusement le 15 du trèfle a réussi à inscrire 3 de ses 4 essais par la suite et en seconde période et arrive à prendre sa revanche sur l'Angleterre qui l'avait privé du grand chelem l'an dernier. On s'attendait pas à ce que ce soit si difficile pour l'Angleterre, c'est dire si ça va être compliqué à Twickenham face à l'Allemagne. Face à l'Angleterre, pardon.
Disons que ça a été le meilleur match Destination sur la première journée. Énormément d'intensité. Les Anglais ont fait une très bonne première mi-temps. Ils mènent 10-5. Les Irlandais ont eu des difficultés, surtout avec leur demi d'ouverture qui est passé complètement à travers. Ils ont fait du coaching à la 50e minute. Et par contre, voilà, ils ont gagné avec le bonus offensif. Les Anglais ont eu du mal à finir le match. Leur banc n'a pas apporté de plus-value. Donc, il va falloir compter sur les Irlandais. Mais par contre, contre l'Angleterre à Twickenham, ça va être chaud. Et on va en parler tout à l'heure. Mais il va falloir être bon sur les duels aériens parce que les Anglais ont mis un jeu au pied de pression, ils n'ont pas arrêté et ça a été un combat incroyable sur les duels aériens.
Christophe, c'est une bonne nouvelle pour le 15 de France parce que ça veut dire que l'Irlande est prenable ou non, mauvaise nouvelle parce que l'Angleterre va être dans le coup là.
La bonne nouvelle c'est qu'ils ont joué 24 heures après nous et que le match a été plus intense que le nôtre, donc déjà ce matin ils vont se lever, ils vont être obligés de se mettre dans la glace pendant quelques heures pour récupérer. Ouais, bon, on sait le problème de l'Angleterre, c'est c'est une équipe qui joue bien, mais qui perd toujours à la fin. Ça fait un an que c'est le Sahara. Ils dominent les débats et ils ont une tactique qui est plutôt efficace. Mais à la fin de la rencontre, ils finissent toujours par se faire taper par des Irlandais qui, les années précédentes, enfin l'année dernière, s'étaient fait taper aussi par l'Angleterre qui les avait privés du Grand Chelem. Mais les Irlandais avaient l'habitude quand même d'infliger des défaites un peu plus probantes à leurs adversaires. Moi, je les ai pas trouvés exceptionnels. Et je me dis en plus,
les Irlandais ou les Anglais,
quatre matchs,
ils sont moins précis. Les Irlandais.
Quatre matchs, les Irlandais.
C'est tout bon pour nous, ça.
Seront peut-être prenables un peu plus, mais d'abord, il faudra aller battre l'Angleterre la semaine prochaine.
Ok.
Bon, enfin, si on est les seuls à perdre contre l'Angleterre, franchement, là, ça serait pas possible. Quoi.
On en parle dans quelques instants à partir de 10h avec évidemment Mathieu Jalibert. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Renaud Lavillenie qui franchit une barre à 5m80. On s'en fout pas, Sarah.
Mais non, on s'en fout pas.
Ok,
on s'en fout pas.
Ok. C'était mieux avant.
Pas.
Christophe va prendre aussi l'ancien recordman du monde français du saut à la perche. Donc Renaud Lavillenie a franchi. C'était vendredi soir, 5m80 pour sa rentrée en salle à Caen, une hauteur qu'il n'avait plus passée depuis quasiment 2 ans et demi. Ensuite, il a tenté 5m85 et puis il a préféré s'arrêter au troisième essai car il ne voulait pas prendre de risque. Il l'a dit, hein, lui, il envisageait 5m70, mais là, 5m80, ça dépasse ses attentes. Ça fait du bien de le revoir, lui qui avait raté la qualif pour les Jeux Olympiques.
Mais oui, parce qu'on l'avait laissé et on y était, hein, RMC, au championnat Angers, de France, oui. À Angers, oui. Où il jouait sa qualif pour les Jeux. C'est cruel, c'est
on
cruel de
triste,
voir un champion olympique qui se qualifie pas. On pensait que qu'il serait difficile de revenir. Enfin, moi, je j'imaginais pas qu'il continue sa carrière. Bon,
tout le monde pensait qu'il allait arrêter.
Exactement.
Ça,
et donc ce 5m80, je crois qu'il est pas loin finalement de pouvoir se qualifier pour les championnats d'Europe. Après, il y a les championnats du monde. Donc c'est une très très belle nouvelle pour lui.
Champion.
C'est un immense champion et on est ravis de
revenir, voilà. Se relever de ça parce que tout le monde pensait effectivement après les JO, tu te dis. Il va arrêter, en plus de façon triste, etc. Là, il se relance, il fait une perf.
Oui, parce que Los Angeles, c'est quand même très très loin.
Oui, voilà.
La motivation, son objectif. Mais pour un champion comme ça, trouver des motivations, c'est pas évident. Donc, chapeau bas à Renaud.
Voilà, c'était important d'en parler aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Allez, dans quelques instants, on va ouvrir le dossier. Angleterre-France, c'est samedi prochain, évidemment, cette
on
question.
On n'a pas parlé de PSG-Brest, disons.
À l'ouverture, oui, bah, j'ai pas eu le temps pour PSG-Brest. Ouais. Tu voulais en parler?
Non,
mais je savais pas.
Je trouvais que c'était un match intéressant. Pour une fois qu'un match du PSG était intéressant à 10 jours de la Ligue des Champions.
Tout arrive. Là, si Christophe me demande de mettre du foot dans le conducteur, c'est magnifique.
Il y avait des trucs intéressants. Et puis le monotype de carbone interdit, non plus. On n'en parle pas.
À tout de suite sur RMC. Christophe est là, il est grincheux, c'est parfait.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.